Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h20, vous vous êtes peut-être levé à 3h du matin pour voir le premier débat cette nuit entre Donald Trump et Joe Biden et les présidentielles américaines. On en parle ce matin, bien sûr, avec des spécialistes. On a Jean-Claude Bonjour qui est là, vice-président de France Amérique. On a Stéphane Marchand, rédacteur en chef de Pour l'Écho, et Philippe Carcenti qui est porte-parole français des Républicains en France et conseiller municipal à Neuilly.
Oui, merci à tous les trois. Donc on entend l'hymne américain effectivement en fond.
S'est levé avec la main sur le cœur.
Non, personne ne s'est levé. Ils ont failli se lever quand même cette nuit, parce que ça a été assez musclé quand même, hein, ce débat. On va le voir tout à l'heure, et on va détailler tout ça, parce que sur le fond, il n'y a pas eu énormément de choses. Ça a été plus sur la forme. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Jean-Claude Beaujour, peut-être, dans un premier temps.
C'est vrai qu'on peut regretter que sur le fond, aucun des candidats n'a développé véritablement, pour l'un, son projet politique, parce que le président sortant, on sait bien, le bilan, il est ce qu'il est. Après, c'est la suite, donc on ne sait pas très bien pour le président Trump ce qu'il fera pour la suite, pour les 4 ans, quels seront les grands axes de sa mandature. On a bien compris qu'il voulait continuer à redresser l'économie. Bon, mais ça ne va pas très loin, c'est normal après le Covid. Et pareil pour le vice-président Biden, on n'a pas eu d'approfondissement sur la politique de santé, puisqu'il a bien dit qu'il souhaitait revoir tout cela. Puis par ailleurs, il a voulu aborder, j'ai le sentiment, la green economy. Alors, il a d'abord dit qu'il n'était pas vraiment pour tout ce qui avait été écrit, mais en même temps, il était pour. Alors, c'était un peu flou. Mm-hmm. Et il n'a pas donné de précision quant au chiffrage de cette éventuelle politique. Pour moi, ce sont les deux points en interrogation pour chacun des deux candidats, parce que pour le reste, aucun intérêt sur « il m'a traité de ci, il l'a traité de ça », tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il ne faut pas oublier qu'il y a 22 millions d'Américains qui ont perdu leur emploi avec le Covid, il y a encore 11 millions qui n'ont toujours pas retrouvé d'emploi, il y a des gens qui vont connaître une crise sociale importante, des entreprises qui ferment, on le voit bien, des entreprises qui ferment, c'était un peu ça ma préoccupation de...
Philippe Carcenti, vous du côté républicain, pro-trumpiste donc.
Alors, première chose, je ne suis plus maire adjoint de Neuilly, donc je ne suis plus élu. C'est juste pour...
Ouais.
Faut pas s'attribuer des trucs que l'on n'a plus. Écoutez, moi j'ai trouvé ce débat décevant. D'abord parce qu'on avait surestimé la sénilité de Joe Biden. On avait pensé qu'il s'effondrerait. Il ne s'est pas effondré. Mm-hmm. Bon, il a eu des moments où il a vraiment bafouillé de façon ridicule, mais il ne s'est pas effondré. J'ai trouvé que Trump était son pire ennemi, parce que quand Biden s'enfonçait, Trump l'interrompait, et ça a été vraiment assez désagréable. On a envie de laisser le type se noyer en face de soi, et il ne l'a pas laissé se noyer. Donc, je suis assez déçu du débat. Je ne pense pas, contrairement... ce matin, je me suis amusé à écouter CNN. Ouais. Très amusant d'écouter CNN.
CNN, c'est Biden qui a pris davantage.
On vit sur une autre planète. Donc, je ne suis pas... je ne vous dis pas que Trump a gagné, je ne vous dis pas que Biden a gagné. Je vous dis que je suis déçu parce que je n'ai pas vu ce que j'attendais, c'est-à-dire Trump laisser l'autre s'effondrer. Et contrairement à ce que disait Jean-Claude, moi je pense qu'on sait très bien ce qu'on est en train de choisir, ce à quoi on a affaire. On a affaire à deux choix de personnalité. On a un type qui est ce qu'il est, qui a un caractère, qui a une énergie et qui a envie de faire des choses. Face à lui, on a un Joe Biden qui vraiment, pour moi, l'impression qu'il m'a donné, c'est vraiment d'être une marionnette. Un type qui n'a pas de consistance. Et ce que j'ai trouvé incroyable, mais vraiment, il y a une phrase, moi, qui est restée, c'est quand on lui a demandé « Mais alors, les Antifa, vous condamnez les Antifa ?» Il a dit « Les Antifa, c'est une idée, c'est un concept, c'est pas un mouvement. »
C'est Biden qui a dit
ça.
Et il y avait eu la même question quasiment posée à Trump sur l'extrême droite, quoi. Il avait renvoyé sur les Antifa.
Trump n'a aucun problème à condamner l'extrême droite, mais là, vraiment, quand Biden nous explique que les Antifa, c'est un concept, moi, j'aimerais que même les gens de Paris, quand ils voient ce qui se passe à Paris, l'Arc de Triomphe tagué, toutes ces choses-là, qu'on comprenne un petit peu ce que sont les Antifa.
Oui, avant de rentrer dans le débat, Stéphane Marchand, vous.
Alors moi, je pense que toute la stratégie de Trump, c'est qu'il n'y ait pas de débat, parce que s'il y avait un débat, le seul sujet du débat, c'était Trump lui-même. Et donc, il est assez bien parvenu à ça, en fait. Son objectif n'était pas de détruire Biden, son objectif était de détruire le débat. Et ça, c'est pas mal réussi. C'est pas mal réussi dans la mesure où alors les interruptions se sont multipliées sans cesse, les insultes. Il a réussi peut-être à, comme il a transformé le débat en pugilat, il a réussi peut-être, c'est sa réussite de cette nuit, à montrer que physiquement, il était là. Physiquement, au service de ces idées délétères, de ces idées délirantes, de ces fake news, ces théories du complot, il était physiquement prêt à en découdre et qu'il était
non mais
plus
ça, on le savait.
Puissant
oui,
physiquement
on le savait.
Que Biden.
Il voulait imposer sa puissance physique, c'est ça, hein, Jean-Claude Bonjour.
Oui, mais moi, contrairement, alors je ne partage pas ce qui vient d'être dit, deux choix de personnalité, ça ne fait pas deux choix de politique. On peut avoir des personnalités complètement différentes, avoir des politiques convergentes et vice-versa. Moi, je crois que le vrai sujet, c'est qu'effectivement, sur certains thèmes très précis, nous ne sommes pas rentrés dans le débat. Et c'est ce qui intéressait les Américains. Alors, c'est vrai qu'on s'attendait à un rapport physique et on s'attendait à ce que Biden s'effondre. Il ne s'est pas effondré parce qu'il avait aussi intérêt à maintenir une certaine ligne et que finalement, je pense que le président sortant, le président Trump, n'est pas un homme à aller à un débat tranquille, avec une répartie. C'est pas dans son caractère,
non, c'est pas
bien ou mal. C'est pas dans son tempérament. Je pense que c'est... Faut pas s'attendre à cela.
On dit que les débats... télévisés n'ont pas vraiment d'impact sur le scrutin. Est-ce que celui-ci, généralement, est-ce que celui-ci en aura ?
Il y a des contre-exemples quand même aux États-Unis. On sait très bien, par exemple, que Nixon a perdu la présidence contre Kennedy à la suite d'un débat où il était apparu mal rasé, transpirant, fatigué, haineux, agressif face à un Kennedy.
Il dit qu'il avait 42 ans quand même, donc le contraste était important.
Mais en même temps, Kennedy avait très très bien compris la puissance de la télévision.
Et c'était le premier débat télévisé.
Voilà, donc c'est un contre-exemple qui n'est pas véritablement un contre-exemple. En général, ça ne change pas grand-chose. Là, la tendance...
Ça conforte plutôt, dans un sens ou dans un autre. Quoi.
Et puis là, c'est une campagne où l'avance de Biden dans les sondages est extrêmement stable.
Oui.
Depuis très 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 longtemps.
Grosso modo, il a 6 points d'avance, quoi, à peu près, dans les sondages. Quoi, hein.
C'est quand même pas mal. C'est un peu au-delà de la marge d'erreur. Ouais.
C'est pour ça, Philippe Carsenti, qu'on attendait quand même que Trump bouscule davantage peut-être Biden pour essayer de le faire craquer, quoi, à un moment donné.
Alors, avant tout, je ne crois pas à l'avantage de Biden dans les sondages. Je pense qu'on est dans une situation exactement aux États-Unis comme on l'a été en France, à un moment donné, avec le vote Front National,
c'est-à-dire
où
que
les gens ne disent pas...
Un vote masqué, quoi.
Voilà, un vote masqué. Vous savez, ce que j'ai vu dans Chris Wallace, le modérateur du débat hier, qui est un journaliste de Fox News...
C'est qui est de Fox News, mais attention, parce que c'est pas Fox News tel qu'on l'entend, on caricature souvent. Lui, il est plutôt assez neutre.
Il faut écouter Fox News, je t'assure que ça n'est pas une chaîne caricaturale comme ce qu'on nous rencontre en France, contrairement à CNN, qui est vraiment une chaîne de propagande pure et simple.
Ouais.
Et donc Chris Wallace était là un petit peu pour se dédouaner. Attendez, j'ai l'étiquette Fox News, mais attention, je ne suis pas pro-Trump, etc. Donc il a fait un travail. Moi, je suis désolé, mais j'ai
été incapable de modérer le débat en tout cas. Totalement incapable.
Mais ce que moi,
il n'y avait pas de débat d'ailleurs.
On est d'accord. Ouais. Et moi, ce que j'ai vu, c'est quand même les insultes, les ta gueule, les espèces de clowns, etc. C'est Biden qui les a balancés. Et c'est ça qui est dingue. Et donc je me dis, ce qui est quand même incroyable, et moi, je regrette vraiment que Trump n'ait pas voulu préparer ce débat, et ça c'est clair.
C'est-à-dire
il n'a pas préparé ce débat.
En toute franchise, au bout de 4 ans de présidence, et quand on a la trempe de... Quand on a 70 ans, on sait à peu près...
Où on va.
Non, mais un débat, ça se prépare.
La réalité, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui, intellectuellement, psychologiquement, de la manière dont il a fait son business, c'est pas un homme à s'asseoir et à discuter en écoutant l'argument de l'autre, en se taisant, vice-versa. Je ne dis pas bien ou mal, et je ne dis pas qui... Je pense que, psychologiquement, il n'en est pas capable. Il a fait son business à New York comme ça. Il arrivait, il mettait le fusil sur la table en disant « Tu me donnes ça et je prends ça. Si t'es pas capable, attention. » C'est comme ça. Et c'est son tempérament.
Je pense que c'est caricatural.
C'est un promoteur immobilier qui fait des coups et qui détruit la concurrence.
Oui.
C'est ça son mindset, comme on dit là-bas.
C'est pas caricatural.
Je pense pas qu'on arrive là où il est arrivé avec
mais ça veut pas dire qu'on n'est pas intelligent. Je dis qu'en termes de tempérament, ça n'est pas un homme à s'asseoir, ça n'est pas un Obama à s'asseoir et à écouter l'argument de l'autre, parce que précisément il pouvait le faire. Précisément il pouvait dire votre politique de santé. Précisément il pouvait dire chiffrez-moi. Il avait une marge de manœuvre en disant.
Et là ils sont pas allés là-dessus.
Et là il n'est pas allé là-dessus. Ouais. Il s'est contenté de dire mais non, mais tu ne feras rien. Et puis si, c'est... moi je serais
allé. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Mais précisément, quand on a ce niveau et quand on a cette expérience, On doit être capable.
Allez, on continue dans un instant avec les appels aussi d'auditeurs. Donc 0826-300-300, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que vous pensez d'une façon plus générale de Trump et de Joe Biden? Il n'y a rien d'intelligent en vous. C'est ce qu'a dit Trump à Biden. Ça montre quand même le niveau en fait, de ce débat. C'était, voilà.
Et, oui, vous avez dit plusieurs... fait que Joe Biden avait fait l'université du Delaware et que Trump, lui, qui a fait une meilleure université, profitait de l'occasion pour le ridiculiser.
Bon, vraiment... on y revient sur ce débat musclé. Dans
cette
un instant, jusqu'à 10h.
Restez là, il est 9h30.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h33, avec nos spécialistes aujourd'hui, ils sont restés très sages pour l'instant sur cette campagne présidentielle et suite à la suite de ce premier débat entre Donald Trump et Joe Biden. Jean-Claude Beaujour est avec nous, Stéphane Marchand, Philippe Carcenti et vos appels au 0826-300-300. On vous appelle,
on va y aller dans un instant, mais peut-être parce que ce que vous disiez, Philippe Carcenti, tout à l'heure, était assez intéressant en disant il y a ce sondage, donc ces sondages depuis 6 mois, qui donne grosso modo toujours à peu près 6 points d'avance à Biden face à Trump. Hein. Vous dites, oui, mais c'est peut-être pas la réalité. C'est vrai qu'on l'a vu il y a 4 ans, c'était un peu la même chose. Parce qu'il faut bien comprendre d'ici, peut-être Stéphane Marchand avec vous, sur la santé économique des États-Unis, où on dit que bah, finalement, les classes moyennes, elles ne détestent pas Trump parce qu'il il leur a permis de raccrocher les wagons, si je puis dire. Quoi, non ?
Alors oui, vous avez tout à fait raison. L'économie, c'est très important aux États-Unis en général.
Bah oui, oui.
C'est l'économie qui décide de tout. La fameuse c'est « It's the economy stupid », la fameuse phrase de James Carville sous Clinton. Pour l'Écho, le magazine que je dirige, consacre son numéro d'octobre à l'économie américaine, justement, et en se demandant si elle est toujours libérale ou est-ce qu'elle est devenue nationaliste, mais peu importe. Tout à l'heure, monsieur disait... Jean-Claude Beaujour nous disait il y a eu 22 millions de personnes qui ont perdu leur emploi à cause du Covid.
Ouais.
Depuis, il y en a 11 millions qui ont retrouvé un emploi.
Ouais.
C'est vous dire à quel point...
En l'espace de quelques semaines.
C'est vous dire à quel point le terreau américain est propice à la création d'emplois, propice à la libre entreprise, et propice à la croissance. Et ça, globalement, aux États-Unis en général, j'ai vécu 7 ans là-bas comme correspondant du Figaro, franchement, c'est ça au dernier moment qui compte, sauf catastrophe, sauf crise cataclysmique. Et je ne suis pas certain que le coronavirus atteigne ce niveau-là dans les esprits américains. Toujours est-il que l'économie va bien, la bourse va pas bien, elle va très bien.
Bah oui, c'est ça qui est assez étonnant.
Et ça compte énormément. Donc ça, Donald Trump, il joue sur de velours avec ça.
Ouais.
Mais en revanche, est-ce que les milieux économiques continuent de soutenir Trump? Est-ce que Trump n'a pas franchi la limite de crédibilité avec son comportement? Ça, c'est une autre affaire. Et c'est pas les électeurs.
Alors ça, c'est intéressant. Jean-Claude, bonjour. Oui, vous qui avez, avec votre association France-Amérique, est-ce que les milieux économiques sont toujours derrière Donald Trump ou est-ce qu'ils sont quand même vraiment très méfiants?
Les milieux économiques sont très méfiants, mais ce ne sont pas les milieux économiques qui votent.
Alors non, mais
là
ça, c'est
où
vrai.
Là où je suis complètement d'accord, c'est qu'on dit, alors sur les sondages, moi je pense que les choses ne sont absolument pas faites. Même avec 6 ou 7 points de sondage, les choses ne sont pas pliées. Et qu'effectivement, Donald Trump a eu l'occasion de le redire à plusieurs reprises. Il a dit on a créé de l'emploi, le pays est dynamique. Plus ou moins, à chaque fois, il revenait un peu là-dessus parce qu'il sait bien qu'au final, c'est bien ce que lui souhaiteront avoir les Américains. Qu'est-ce qu'on va avoir dans notre assiette à la fin du mois? Et c'est cela qui va importer. Ne pas perdre son logement, ne pas retrouver un emploi. Et pour un Américain, c'est ce qui est le plus important. Retrouver son emploi parce que c'est ce qui détermine tout le reste, c'est ce qui détermine la possibilité de payer son prêt bancaire, c'est ce qui détermine son assurance maladie, c'est ce qui détermine de pouvoir soigner et d'envoyer ses enfants à l'école.
Ça, cette nuit, Philippe Carcenti, il n'a pas beaucoup abordé, il aurait pu peut-être davantage l'aborder, quoi, non ? Cet aspect des choses, quoi.
Encore une fois, je pense que c'était un problème de... Il y avait un affrontement de personnalité.
Ouais.
Et la situation, elle est vraiment entre un type qui est dynamique, qui a une énergie incroyable face à lui, vraiment un Sleepy Joe, quoi. Un Joe l'endormi.
Il n'était pas endormi.
Hier, il était dopé. Je pense que Trump avait raison.
Ah ben non.
Je pense qu'il était dopé. Non, mais
mal dopé, alors.
Ce type qui passe sa campagne dans la cave, il fait campagne dans une cave. On dirait le chef du Hezbollah.
Oui, c'est vrai, c'est une campagne. Cécile le disait tout à l'heure. C'est une campagne virtuelle.
C'est une campagne virtuelle avec en soutien 95% des médias américains qui sont là à bombarder Trump. C'est quand même incroyable. Et franchement, je suis assez confiant sur le fait que Trump va gagner en me disant on a face à nous un type qui est assis tranquillement et qui attend que le résultat lui tombe dans les bras. Mmh. Et je pense que Trump va gagner à la fin.
Oui, oui, oui. Parce que. Alors,
on va au standard. Parce que ça téléphone beaucoup avec Jean-Noël qui est avec nous. Bonjour Jean-Noël.
Bonjour Jean-Noël.
Bonjour à vous tous et les auditeurs.
Oui.
Mais je vous ai écouté un peu avec attention. Moi, bon, le débat, je n'ai pas tout suivi. J'ai regardé un petit peu, mais
Final.
Ouais. Mais enfin, il y a quelque chose qui me turlupine quand même par rapport à. C'est vrai que les médias sont à 95, voire 99% pour monsieur Joe Biden.
Ouais.
C'est vrai que, mais il y a deux, trois trucs quand même. En France, nous, quand même, on a une certaine honnêteté intellectuelle à géométrie variable. Quand vous pensez quand même que monsieur Trump, le président Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est nominé deux fois pour le prix Nobel de la paix. Et les médias français le passent sous silence à une, je crois que ça devient affolant même. Ils en parlent pas. Pourtant, il est nominé deux fois. Rappelez-vous quand le président Obama a eu le prix Nobel de la paix. Même lui-même, arrivé à la tribune, il avait dit « On me donne le prix Nobel de la paix, mais j'ai rien fait. » Vous voyez un petit peu la grande différence qu'il y a par rapport à ça. Et surtout, nous, Français, qui courons derrière, après M. Joe Biden, qui pense d'abord à l'Amérique et après à la France, nous, Français, la France qui court derrière lui, ça me paraît quand même un petit peu fort. Ensuite, ce que fait M. Trump depuis 4 ans, rappelez-vous quand même que Joe Biden a été vice-président 8 ans, je crois, si je ne me trompe pas, 8 ans vice-président des États-Unis, pendant 8 ans, gouvernement Obama, l'administration Obama. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut voir un petit peu comment ils ont laissé le pays. Et aujourd'hui, votre intervenant a tout à fait raison. Quand il dit que les Américains pensent d'abord à leur business, ils pensent à leur économie, First America, et surtout, les fonds de pension remontent aussi. C'est-à-dire que ça prouve bien que pour les fonds de pension, pour les retraités américains, ben ça perdure, et ça c'est une bonne chose pour les Américains. Et en d'autres termes, les mots durs qu'a lâché M. Joe Biden, imaginez si c'était Trump qui les avait donnés, en boucle, ça passerait sur une certaine chaîne de d'information française qui commence par B et finit par M, ce serait en boucle tout le temps en disant, voyez le méchant Trump. Alors les Américains, ils sont moins stupides que nous, je pense, parce que nous, on croit encore au Père Noël, à la calinothérapie. Les Américains sont moins, et c'est vrai que j'ai des clients aux États-Unis qui me disent, ils l'avaient dit en 2016, et qui me disent, Jean-Noël, t'inquiète pas, normalement, Trump gagnera, et on l'espère, beaucoup l'espèrent. Alors, c'est sûr que les médias français, quand on voit les manifestations d'Afro-Américains qui se passent et qui vont lâcher, ils s'en servent là.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais Jean-Noël, il faut reconnaître que même chez les Républicains, tout le monde n'a pas confiance aussi dans Donald Trump, parce qu'il est un peu, Philippe Carcenti, vous le disiez vous-même, représentant des Américains, des Républicains, c'est qu'il est imprévisible aussi, Donald Trump.
Il est imprévisible, mais ce que vient de dire Jean-Noël est quand même assez intéressant. C'est vrai que ces traités de paix qu'il a réussi à obtenir avec Bahreïn et avec les Émirats Arabes Unis, ça passe sous silence. Ouais. C'est quelque chose d'exceptionnel ce qu'il est en train de réussir de faire. Et quand on compare avec... On est français, moi j'ai été un élu français. Quand on compare ce qu'essaye de faire Emmanuel Macron au Liban et le fiasco total de la politique étrangère française, alors qu'on a l'impression en France exactement du contraire, c'est quand même assez désespérant. Donc oui, il est imprévisible, mais c'est son imprévisibilité qui est sa force. Et c'est le fait on ne peut même pas imaginer quelle sera sa prochaine étape. Et c'est ça, je crois, que les Américains apprécient. Ils aiment cet effet de surprise qui va dans le bon sens.
Oui, Stéphane Marchand.
Le traité de paix entre Israël et Bahreïn, et entre Israël et les Émirats Arabes Unis, je crois, n'a, dans l'élection américaine, strictement aucune importance.
Oui.
C'est totalement marginal. Totalement marginal.
Pas chez les évangélistes. Pas chez les évangélistes.
Oui, mais parfois, ça se gagne une élection aussi.
Sachant que la communauté juive est totalement, résolument anti-Trump, ça c'est une claire, quelque chose de très clair, mais du côté des évangélistes, le fait...
C'est pas la communauté juive américaine qui est pro-israélienne au sens de pro-Likoud, pas du tout.
Ils sont vraiment anti-Trump à 75%.
Mais ce que je voulais dire, c'est que nous, on a un rapport un peu mystique à la présidence de la République française. C'est un monarque tout puissant, omniscient, qui sait tout, qui a fait des bonnes études, etc. Les Américains ont avec leur président un rapport complètement différent. Et on pourrait presque dire que le président américain est plus important pour un Français que pour un Américain. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais pour un Américain, le président est un prestataire de service. Un prestataire de service principalement économique. Il est chargé d'installer un climat permettant de faire du business, de faire des emplois, de faire de la croissance. Il n'est pas chargé...
Il est perçu comme ça par l'ensemble de, globalement l'ensemble de la population américaine.
Oui, c'est comme ça que l'électeur américain le voit. Plus, il sait très bien que le président américain n'est pas très puissant par rapport au président français, hein, toute proportion gardée. Il a face à lui un congrès qui peut lui jouer des tours considérables, même quand il est du même bord politique. Et puis, il a une Cour suprême qui est l'équivalent de la Cour de cassation, plus le Conseil constitutionnel, plus le Conseil d'État. C'est une puissance judiciaire considérable qu'il a face à lui. Et par conséquent, le président américain est vu, c'est ça, comme un prestataire de service.
Jean-Claude Beaujour.
Une ancienne monarchie. Donc le président américain, c'est monsieur tout le monde. Nous avons le sentiment que le côté abrupt du président Trump le rend inéligible, en quelque sorte. Donc pour nous, il est peut-être pas le meilleur candidat, le meilleur président, et on aurait préféré quelqu'un à la Kennedy ou bien à la Obama.
À la Kennedy, quoi, qui faisait venir des prostituées à la Maison Blanche.
Non, mais attendez,
faut quand même rappeler.
Je n'approuve pas un certain nombre de choses, c'est pas cela dont je parle. Je dis, dans l'imaginaire français, on imagine le président un peu comme un monarque. Le président français, c'est ça. Il y a un deuxième élément, c'est que c'est vrai que les Français ont tendance à être plutôt pro-démocrate que républicain, probablement parce que c'est vrai que les démocrates représentent un peu les gaullistes sociaux, en quelque sorte, en France. Donc c'est vrai qu'en termes de politique, probablement, dans la conception française, un républicain déjà trop à droite, trop libéral, en quelque sorte, pour un Français, qu'il se retrouve beaucoup plus, c'est l'analyse en tout cas que j'en fais, il se retrouve beaucoup plus dans un démocrate que dans un républicain.
Jean-Claude me donne l'opportunité d'expliquer un petit peu, je dirais, la folie médiatique dans laquelle on vit depuis au moins 60 ans.
Sur le mythe Kennedy, par
exemple. Le mythe Kennedy, je dirais toujours la diabolisation des républicains et l'idéalisation des démocrates. On a un président qui s'appelle John Fitzgerald Kennedy, qui a probablement, selon toutes les enquêtes actuelles, volé l'élection contre Nixon en 60. Donc ça, c'est une première chose. Qui faisait venir des prostituées à la Maison Blanche. On a des doutes quand même sur le fait que certaines personnes soient mortes autour de lui de façon naturelle. Qui avait son père qui était lié à la mafia, qui était un nazi, qui était vraiment le type le plus infréquentable du monde. Mais aujourd'hui, l'idéalisation, la déification de John Fitzgerald Kennedy fait qu'on est même ici pas loin du quai du président Kennedy.
Sur le fond, on peut comprendre. Moi, c'était pas mon propos. Mon propos, c'était de dire comment est-ce que les Français
se perçoivent.
C'est une perception. Ouais. D'ailleurs, le côté mythe des Kennedy a fonctionné, y compris aux États-Unis à une époque, la famille, etc. Je pense que ça aussi, ce sont les éléments qui jouent.
Mais parce que les médias américains jouent aussi ce jeu-là.
Mais comme les médias jouent de tout,
ça. Aujourd'hui, je continue à penser que Donald Trump, malgré sa personnalité, malgré ses défauts et ses emportements, reste aujourd'hui un immense président, quelqu'un qui fait des choses absolument incroyables pour le pays et qui a fait prendre conscience au monde entier que la Chine était en train de détruire le monde, que la Chine était en train de prendre le contrôle du monde. Et même en France, où on s'est aperçu qu'on n'était même pas capable de fabriquer des petits masques en coton ou en tissu, on s'est aperçu qu'en fait, la Chine nous avait privés de tout. Et aujourd'hui, je crois que
c'est important ce que vient de dire Philippe Carcentis sur le rapport avec la Chine, qui est extrêmement violent. Si jamais c'est Biden qui est président dans quelques mois, ça ne changera pas beaucoup
en réalité.
Absolument. Sur le fond. Parce que c'est une tendance extrêmement lourde. Le choc entre les deux pays ne s'arrêtera pas.
Oui, mais on dit justement qu'il a mis quelques gestes barrières, si je puis dire, avant le Covid avec la Chine.
Il y a à peu près un an, tous les candidats, vous avez vu, tous les candidats démocrates se sont découverts quasiment anti-chinois. Ils ont bien compris, y compris Mme Warren, ils ont bien compris qu'effectivement, il y avait un mouvement qui allait en plus dans le sens de ce que souhaitait le peuple américain. Ils ne reviendront pas beaucoup
plus sur ce qui a été décidé. Allez, on va poursuivre dans un instant.
Juste bonjour à Olivier qui est en ligne avec nous, 0826-300-300. On revient dans un instant, il est 9h47.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Merci de votre fidélité au Grand Matin Sud Radio. Nos invités sont encore là. Et puis nous avons Olivier en ligne qui voulait réagir justement. Bonjour Olivier, bienvenue.
Bonjour
Olivier.
Bonjour à tous. Ça me fait rire parce que j'entends beaucoup dire Trump ne sera pas réélu, Trump ne sera pas réélu. Moi, je suis presque sûr qu'il sera réélu. Il est un peu foufou ce monsieur.
Vrai, oui.
il, euh, il se met un peu des choses qu'il ne regarde pas. Il conseille à Macron d'envoyer des Canadair sur le... sur Notre-Dame,
ouais,
il fait plein de trucs bizarres.
Il s'octroie un pouvoir qu'il n'a pas, c'est ça que vous voulez dire?
Non, il pense donner des bons conseils, il pense tout savoir. Quand on voit par exemple qu'il dit à Ford, vous partez au Mexique, vous ne vendrez plus une voiture aux États-Unis, là il tape fort sur la table et il montre qu'il est capable de gérer. Et s'il est milliardaire, c'est pas pour rien non plus quand même. Il faut bien se mettre ça dans la tête que c'est un exemple pour les Américains. Donc c'est un gars qui a réussi et il promet de faire réussir son pays. Il passe son pays que redevienne grande, que l'Amérique redevienne grande. Et je pense que c'est un atout majeur. J'ai regardé un peu le débat, pas beaucoup parce que c'était tard.
Ouais.
Mais
tout.
Bon, c'est après il devient agressif, mais bon, l'autre aussi. Hein, à un moment donné, les prochains débats, ça sera pareil. Donc pour moi. Trump sera le nouveau président des États-Unis.
Enfin, sera réélu, quoi.
On annule tout, c'est bon.
On comprend ce que vous dites, vous rejoignez en ça Philippe Carcenti, même Jean-Claude Beaujour et Stéphane Marchand disent un peu pas la même chose, mais ils disent c'est vrai que les jeux sont pas faits, parce que pour ce qui est important pour les Américains, c'est leur pouvoir d'achat, c'est le boulot, c'est la fin du mois, quoi.
Et puis il y a aussi des stratégies électorales qui sont très américaines et qu'on a du mal un peu à percevoir en France, c'est des stratégies état par état. Hein. Mmh. Tout le monde sait maintenant que tout va se jouer, une grande partie des choses vont se jouer dans trois états, qui sont l'Illinois, l'Indiana et le Wisconsin. Et déjà, le Wisconsin, il y a 4 ans, avait joué un rôle considérable dans la victoire de Trump.
Et il ne nous aura pas échappé que pendant effectivement le débat, à plusieurs reprises, il a parlé précisément de ces états.
Bien sûr.
En disant, vous avez vu, par exemple, il a dit, vous voyez, vous voulez enfermer la Philadelphie et la Pennsylvanie, vous voulez les enfermer, parce qu'il sait à ce moment là qu'il parle aux électeurs de Pennsylvanie et qu'il a besoin de gagner la Pennsylvanie.
Dans ces États, dans ces trois États cruciaux, le vote catholique est extrêmement important. Suivez mon regard. Ouais. La polémique en ce moment sur la nomination de la future Barrett, juge
bien
à
sûr.
La Cour suprême, est une catholique fervente.
De l'Indiana.
Et qu'elle soit ou non confirmée avant l'élection, ça paraît difficile qu'elle le soit de toute façon, mais la campagne que Trump mène est une campagne directement tournée vers ces trois États-là.
Moi, je voudrais quand même ajouter un autre État qui est la Floride. Et il y a quelque chose d'absolument incroyable, mais vraiment incroyable. Michael Bloomberg a mis de l'argent et est en train de lever des fonds pour payer les dettes des gens qui ne peuvent pas voter en Floride. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'acheter des voix de façon... Mais c'est une corruption de la vie politique américaine incroyable. C'est officiel. Googlez, vous verrez. Michael Bloomberg est en train de lever des fonds pour payer les dettes de ces gens-là, pour leur permettre de voter, pour faire basculer l'État de Floride dans le camp démocrate. Si Trump s'était amusé à faire ça avec son argent ou avec l'argent de ses amis milliardaires, on aurait dit « Ah !» Le drame.
Complot.
Et ce que je trouve très fort, et ce qu'on entend dans les deux interventions de vos auditeurs, c'est exactement ça. Malgré le matraquage de propagande, écoutez tous les médias français sur Trump et sur Biden, toute cette propagande, les gens ont du bon sens. Ils se disent, mais finalement, ce type fait quand même un bon boulot. Et je crois que c'est ça ce qu'on va voir le 3 novembre. On va voir la vraie Amérique, la majorité silencieuse qui va sortir et qui va dire, nous, on veut l'America first et on ne veut pas de ce sleepy Joe.
Oui, alors, dernier point, puis on verra peut-être au prochain débat, mais toute la question est de savoir, est-ce qu'il va reconnaître ou pas d'ailleurs le résultat? Il y a eu toute une polémique ces derniers jours et il en a été encore question cette nuit, hein, lors du débat.
Je n'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il reconnaîtra
Sauf qu'il y a une inquiétude quand même du fameux vote par correspondance et de la méthode.
Vous avez déjà tenu un bureau de vote, moi j'en ai tenu plusieurs années de bureau de vote. Ouais. Est-ce que vous avez déjà vu en France, quand vous allez voter? Moi, je suis aussi allé voter aux États-Unis. Ouais. Vous votez aux États-Unis, vous savez ce qui se passe quand vous votez aux États-Unis? On ne vous demande même pas de photos sur votre carte d'identité. Vous dites, voilà, je suis...
Donc il peut y avoir des trucages.
Mais ça, et vous avez
beaucoup
de trucages. Oui, bien naturellement, mais il y a beaucoup de trucages. Là, il y a la représentante du Minnesota, Ilhan Omar, où il y a une vidéo qui circule, où on voit absolument les types qui, en 2016, ramassaient par centaines de bulletins de vote et qu'ils allaient déposer. Donc on sait qu'il y a des manipulations.
Ouais. C'est pour ça que justement les jeux ne sont pas faits.
On ne parle pas des manipulations. On parle de la question de savoir si Trump reconnaîtrait les résultats. Il a dit que si les résultats lui étaient défavorables, il ne les reconnaîtrait pas.
Non, il
l'a déclaré.
Non, c'est faux.
La seule manière dont je puisse perdre...
Il a dit si les résultats sont justes, je suis d'accord. Là, cette nuit.
Il n'a pas dit si les résultats sont justes. Il a simplement dit qu'il voulait des résultats justes.
Non, mais ça, c'est... Non, mais attends, c'est... savez comme moi, vous avez été président de bureau de vote, je l'ai été ici aussi, et on a tous eu cette expérience aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, un, le scrutin, il est aujourd'hui ce qu'il est, comme il était il y a 4 ans et comme il était avant. Deux, la question est de savoir est-ce qu'il reconnaîtra s'il est battu au soir du mardi 3 novembre, etc. Moi, je crois que son tempérament sera de ne pas faire de speech, de concession speech en disant « on m'a volé le scrutin ». La seule chose, c'est que je pense qu'il y a suffisamment à Washington de républicains avertis. S'il était battu, ouais. Et je dis bien encore, ouais. La chose n'est pas ouais. dite. S'il était battu, pour pouvoir lui dire « on ne va pas mettre l'Amérique à feu et à sang. On a déjà passé 7 mois difficiles avec le Covid. On ne va pas en plus prendre ouais. l'incertitude d'une instabilité institutionnelle ». Ce qui serait insupportable pour la
mais moi je crois dernier mot, moi ce qui m'inquiète beaucoup plus c'est l'attitude de Philippe la gauche Carcenti. Et l'attitude des antifas qui mettent à feu et à sang certaines villes américaines. Si Trump est réélu, est-ce que je le souhaite, eh bien je pense que malheureusement ces gens-là vont mettre le bazar et le feu et le crime dans toutes les villes américaines.
Merci Philippe Carcenti, Jean-Claude Beaujour, vice-président de France Amérique, et Stéphane Marchand, rédacteur en chef donc de Pour l'Écho. Si vous voulez tout savoir justement, on va se l'arracher là tout à l'heure pour l'Écho.
C'est moi qui l'aurai.
Oui, évidemment, sur l'économie américaine. C'est particulièrement ouais. important. Oh, Dédé Berkoff, il reviendra bien sûr, André Berkoff, entre midi et 14h sur Sud Radio, comme chaque jour, avec ses invités. Dans un instant, Valérie Expert.
Et puis, on remercie bien entendu tous
vos appels. On n'a pas pu prendre tout le monde, désolé. Ouais, mais il y avait
et Valérie Expert qui reçoit Denis Brognard ce matin. Et nous, on se retrouve demain matin, Patrick Roger.
Allez, je vous embrasse.
Levez la main droite et dites je le jure.
Tac, vous avez vu.
Allez, c'est gagné. Allez, salut, à demain.